Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Matthieu. Texte de la liturgie catholique pour le 31e dimanche. Alors Jésus parle aux foules et à ses disciples. Il dit
« Sur la chair de Moïse, se sont assis les scribes et les pharisiens. Donc, tout ce qu'ils vous diraient, faites-le et observez-le. Mais ne faites pas selon leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils ligotent de pesants fardeaux et les imposent sur les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer de leurs doigts. Tous leurs actes, ils les font pour être vus par les gens. Ils élargissent leurs phylactères et allongent leurs franges. Ils aiment la banquette d'honneur dans les dîners et les premières stalles dans les synagogues, et les salutations sur les places publiques, et être appelés par les gens rabbi. Pour vous, ne soyez pas appelés rabbi, car un seul est votre enseigneur et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre père, car un seul est votre Père du ciel. Ne soyez pas appelés guide spirituel, car un seul est votre guide, le Christ. Le plus grand d'entre vous sera votre serviteur, qui se haussera sera humilié, qui s'humiliera sera haussé. Bonjour André.
Bonjour Georges.
Bonjour chers auditeurs et auditrices. Eh bien voilà des consignes qui semblent toujours d'actualité. Cependant, pour bien en mesurer la portée, il nous faut les replacer dans leur contexte.
Où cela se trouve-t-il dans le récit de Matthieu?
Eh bien, on appelle souvent le chapitre 23 le discours anti-pharisien. La suite de notre texte est en effet une longue plainte sur les pharisiens. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, guides aveugles. Matthieu a placé ses lamentations dans les derniers jours de Jésus, avant son arrestation. Oui, Jésus est entré triomphalement à Jérusalem, il a purifié le temple en expulsant les vendeurs, mais il a ainsi catalysé les oppositions. Scribes, pharisiens, sadducéens, hérodiens, tous les groupes vont se liguer contre lui. Les disciples et les foules, encore enthousiastes, doivent donc être, d'une certaine manière, fortifiés pour ce qui s'en vient, l'épreuve finale. Jésus va s'efforcer de leur montrer pourquoi cette élite religieuse, et notamment les chefs, s'acharnent contre lui.
Qu'est-ce que Jésus reproche aux scribes et aux pharisiens?
Les scribes sont des gens qui ont une haute fonction dans la société juive. Pour être ordonné scribe, il fallait avoir fait de longues études et on n'était guère scribe avant l'âge de 40 ans. On reconnaît donc aux scribes une grande autorité pour interpréter la Torah qui est la règle de Dieu. Ils étaient en quelque sorte les porte-parole qualifiés de Dieu pour dire comment il fallait vivre. Et ces scribes s'inscrivent dans une longue suite d'interprètes. Une tradition qui remonte jusqu'à Moïse. D'abord Josué, qui a été le successeur de Moïse et donc l'interprète de la Torah, puis les juges, et ensuite ce qu'on appelle les anciens. Celui qui a pour tâche de préciser le sens de la Torah est en quelque sorte comme un successeur de Moïse. C'est le sens de l'expression « être assis sur la chair de Moïse ». Jésus ne conteste pas l'autorité de la Torah, de la règle de Dieu. Il le dira d'ailleurs très clairement.
N'allez pas croire que je sois venu abroger la Torah ou les prophètes. Je suis venu pour l'accomplir.
Jésus aussi admet qu'il faut des interprètes de cette Torah. Il redit « Faites et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire ». Cependant, Jésus pense que tout véritable interprète doit d'abord prêcher par sa vie. Et à propos des scribes, qui ne vivent pas ce qu'ils imposent aux autres, il dit d'une certaine manière, ce que nous disons souvent de certains politiciens, grands parleurs, petits faiseurs. Jésus n'approuve pas non plus toutes les interprétations de la Torah. Au contraire, il dira « On vous a dit, vous avez appris, mais moi je vous dis ». Et il donne sa propre interprétation, son évangile, qui va d'une certaine manière plus loin et plus profondément.
« On vous a dit, tu ne tueras pas, mais moi je vous dis, ne te mets pas en colère contre ton prochain. On vous a dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, ne résiste pas aux méchants. »
Pour Jésus, l'interprétation qu'il donne ne vient pas annuler la Torah, mais au contraire la rendre plus parfaite. Il s'agit d'aller au cœur de cette Torah, d'en donner le vrai sens. Chaque règle, chaque précepte de la Torah doit être compris et vécu comme une façon d'aimer. Car ce à quoi la Torah nous invite, c'est à devenir des fils et des filles de Dieu. « Soyez parfaits comme votre Père est parfait, » dit Jésus, ce que Luc traduira, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Les scribes, non seulement ne vivent pas comme des fils de Dieu, mais ils égarent beaucoup de gens. On peut dire d'eux ce que le prophète Malachie disait des prêtres du temple, « Les lèvres du prêtre gardent la connaissance, et de sa bouche on recherche l'instruction, car il est messager du Seigneur Dieu. Mais vous, vous avez dévié du chemin, et vous en avez fait vaciller beaucoup par votre enseignement. »
Comment les scribes ont-ils dévié? Comment ont-ils ébranlé la fidélité de beaucoup de Juifs?
C'est que les fardeaux qu'ils imposent aux gens sont trop pesants. Eh bien, qu'est-ce que le fardeau dont parle Jésus? Il s'agit de la Torah. On l'a comparé en effet à un fardeau. En effet, les Juifs devaient apprendre par cœur la Torah avec ses 613 articles auxquels s'ajoute aussi la tradition orale. Et ils l'apprennent par cœur en se balançant, soit en se balançant d'avant en arrière, et cela se nomme le balancement du fardeau, soit en se balançant de droite à gauche, et cela s'appelle le balancement du joug. Le balancement du fardeau mime, en effet, la démarche de quelqu'un qui se relève en portant un objet sur l'épaule, alors que le balancement du joug mime la démarche d'un bœuf attelé à un joug. Fardeau et joug sont donc les images de cette Torah qu'on porte et qui doit conduire notre marche sur le droit chemin vers le bonheur de Dieu. « Ils sont sur le droit chemin du bonheur, » dira Jésus, en parlant de ceux qui vivent selon sa façon à lui de comprendre la Torah, selon son évangile. Comme la Torah devrait l'être, son évangile est un fardeau, un joug, mais un fardeau et un joug qui libère au lieu d'opprimer.
« Prenez sur vous mon joug, et mettez-vous à mon école, et vous trouverez le repos. Car mon joug est bienfaisant, et mon fardeau léger. »
Déjà 200 ans avant Jésus, dans le livre du Siracide, on trouve cette belle prière de Jésus, un Jésus qui est le fils de Sirac.
J'ai cherché la sagesse ouvertement dans ma prière, et mon pied a marché dans le droit chemin. Venez à moi, gens sans instruction, et faites votre demeure dans la maison de l'instruction. Apprenez par cœur l'instruction, et soumettez votre nuque à son joug. Voyez combien j'ai peu peiné avant de trouver le vrai repos. Comment comprendre que l'Évangile est une règle de vie bienfaisante et un enseignement léger à apprendre?
Vient peut-être parce que Jésus simplifie pour mettre l'accent sur l'essentiel. Il le dit d'ailleurs aux scribes et aux pharisiens.
Malheureux êtes-vous, vous qui versez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, alors que vous négligez ce qu'il y a de plus important dans la Torah. Respecter les droits des sans-droits, être bon, être digne de confiance.
Toute la Torah, dira Jésus, se résume dans les deux premiers préceptes qui n'en font qu'un, aimer Dieu et son prochain. Simplifier, on l'a vu, n'est pas banaliser, diluer ou réduire l'exigence. Au contraire, C'est, bien sûr, rendre plus simple l'apprentissage par cœur, mais c'est surtout agir par amour, agir dans la communion de Jésus. Le disciple de Jésus ne porte pas le fardeau, le joug de la règle, comme une règle extérieure, une règle à laquelle on se soumet par obligation, servilement. Lorsqu'il n'y a plus un attachement volontaire à la règle de vie, il y a un légalisme qui devient oppresseur. Pour le disciple de Jésus, la règle est donc comme la traduction concrète de sa vie de relation avec Jésus, sa vie de communion avec lui, une vie faite d'amitié, de fidélité, de marche en commun. Imposer un joug, lier un fardeau sur les épaules de quelqu'un, c'est le ligoter, et cela ne l'aide aucunement à accomplir la règle. Le disciple de Jésus, lui, n'est pas seul. Il vit avec son maître qui est son ami. Et Paul le dira avec flamme et enthousiasme.
Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis. Ma vie présente, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré pour moi. C'est pour que nous soyons vraiment libres que le Christ nous a libérés. Dieu a envoyé son Fils pour la libération de ceux qui sont assujettis à la loi, pour qu'il nous soit donné d'être des fils adoptifs. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Père ». Tu n'es donc plus esclave, mais fils.
Et de plus, le disciple ne vit pas seul avec le Christ, mais il doit vivre au sein d'une fraternité de disciples qui s'entraident.
Portez les fardeaux les uns des autres. Accomplissez la Torah de Christ. Qu'est-ce qui conduit les scribes et les pharisiens à imposer les règles de la Torah comme de pesants fardeaux?
Eh bien, Jésus va décrire la conduite de ces scribes et de ces pharisiens. Ils sont certes hypocrites, car ils disent et ne font pas. Ils portent les préceptes de la Torah dans leurs phylactères, mais ils ne les pratiquent pas. Les phylactères, ce sont ces petits étuis qui contiennent des paroles de la Torah et que l'on attache à son bras gauche, du côté du cœur, ou à son front. Ce mime, Jésus le pratiquait et il invitait à avoir toujours la parole de Dieu proche de sa pensée.
Les paroles que je te donne seront présentes à ton cœur. Tu en feras un signe attaché à ta main, une marque placée devant tes yeux.
Voilà ce que dit le Deutéronome. Et cela veut dire que les paroles de Dieu sont dans la main pour être accomplies, accomplies dans tous nos gestes et dans tous nos actes. Et ça veut dire aussi que ces paroles doivent être devant nos yeux, pour être médité sans cesse. Bon, bien sûr, nous allons faire une comparaison, mais toute comparaison est fautive, mais on pourrait peut-être comparer ces pratiques aux tatouages que certains portent pour afficher leur appartenance à un groupe, ou bien, c'est plus noble, aux mantras qu'on apprend par cœur pour concentrer l'attention afin de permettre la méditation de l'esprit. Les Juifs portaient ces phylactères le matin pour la prière, mais certains, par piété, les gardait toute la journée. Oh, Jésus n'est pas contre ces signes extérieurs, mais ce qu'il critique, c'est l'ostentation. Une ostentation qui entraîne à croire que porter les phylactères peut suffire pour accomplir la parole, alors qu'il faut au contraire la vivre humblement dans le quotidien tout simple de la vie. Jésus parle aussi de ceux qui allongent leurs franges. Ces franges sont quatre cordelettes que les Juifs portent aux quatre coins de leurs vêtements. Chacun des fils correspond aux quatre lettres du mot hébreu Yahvé, qui est le nom de Dieu. Cette coutume vient d'une ancienne loi que l'on trouve inscrite dans le livre des Nombres.
Dis aux fils d'Israël de se faire une frange sur les bords de leurs vêtements et de mettre un fil pourpre. En le voyant, vous vous souviendrez de tous les commandements du Seigneur. Vous les accomplirez et vous ne vous laisserez pas entraîner par vos cœurs et par vos yeux, qui vous mèneraient à l'infidélité. Ainsi vous serez saints pour votre Dieu.
Ce mime signifie le désir d'être entouré de la présence de Dieu afin de lui être fidèle. Et Jésus lui-même portait des franges. Mais il critique ceux qui les portent pour se montrer comme des juifs pieux devant les autres. Et Jésus est peut-être déçu de voir que ces gens, les scribes, qui ont des responsabilités importantes, attachent trop d'importance au paraître, à l'artificiel, au superficiel. Pour Jésus, la priorité se situe au niveau d'une vraie relation en profondeur avec le Père, avec ce Dieu invisible, invisible mais qui voit dans le secret. Ces scribes agissent pour se faire remarquer, ils prennent aussi les premières places dans les assemblées et ils aiment qu'on leur donne des titres.
Que signifient profondément ces attitudes ?
Eh bien, elles sont peut-être une volonté de dominer, de faire sentir son pouvoir sur les autres. Là où il n'y a plus d'amour, alors commence la guerre de pouvoir, a dit un psychologue à propos du couple. Eh bien, cela est vrai de tout groupe humain, que ce soit un groupe de travail, que ce soit une association culturelle, que ce soit une famille, mais aussi dans la communauté religieuse elle-même. Alors que pour Jésus, assumer l'autorité en esprit de service, c'est commencer soi-même à obéir à ce qui est prescrit. Et c'est faire soi-même ce que l'on exhortera les autres à faire. C'est aussi ne pas avoir peur de paraître faible et pécheur aux yeux de ceux sur qui on a autorité. La relation à l'autre n'est pas une relation fraternelle quand on n'est plus vrai, parce qu'on est dominé par le désir de paraître pour se donner du pouvoir. Les titres que les gens se donnent ou veulent qu'on leur donne peuvent donc être des manifestations de ce goût de dominer. Et alors, ils conduisent à se croire soi-même la source de l'autorité, la source du pouvoir, alors que cette autorité ne peut venir que de Dieu. Le mot autorité, comme le mot auteur, vient d'un mot latin, augere, qui signifie faire croître, faire grandir. Il n'y a pas d'autre autorité que celle du Créateur, de celui qui a pouvoir de définir le bien et le mal, et surtout qui peut faire croître ce qu'il crée par l'amour qu'il lui porte. La véritable sagesse qui peut guider l'être humain est celle qui vient de Dieu. On sait que la paternité, dans la culture de la Bible, se définit d'abord par l'éducation. Éduquer, c'est faire grandir quelqu'un. Dieu est le Père unique, parce que c'est de lui que vient la sagesse de la vie qui fait grandir. C'est en nous faisant connaître sa Torah que Dieu fait de nous ses fils et ses filles, qui vont vivre de son esprit. Et le Père humain, lui, n'est qu'un relais de ce Père divin, dans cette transmission de la sagesse. Le rabbi, l'enseigneur de la Torah, n'est lui aussi qu'un relais de Dieu. On peut se souvenir de la cérémonie juive de la bar mitzvah, où le père du jeune juif, devenant adulte, remet à Dieu le rôle de pédagogue qu'il a joué pour enseigner la règle de vie divine, la Torah, à son fils. Toute paternité, comme toute maternité humaine, n'est d'une certaine manière que transitoire. C'est ce qu'écrit Khalil Gibran dans son beau livre « Le prophète ».
Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas.
Et un proverbe arabe dit « Quand ton fils devient adulte, fais-en ton frère ». Le grand théologien Yves Congar disait, lui, je l'ai entendu, « Je veux bien appeler le pape père ». Mais je refuse qu'il m'appelle son fils, car la paternité chrétienne ne fait pas des fils ou des filles, mais des frères, des sœurs. Mais il ne faut pas prendre trop à la légère de telles réflexions. Certains rabbis exigeaient en effet plus de respect pour eux qu'on en accordait à ses parents, en prétextant que les parents ne donnent que la vie corporelle, alors que les maîtres spirituels donnent la vie éternelle. Et certains rabbis se sont fait appeler Abba, un mot familier, l'équivalent de notre papa, que Jésus, lui, réservait à Dieu.
L'Église a-t-elle suivi le conseil de Jésus ?
Pas vraiment. Trop de titres viennent donner un contre-témoignage. Les religieux, les prêtres se font appeler pères. Les responsables de communautés monastiques se nomment des abbés ou des abbesses, un titre qui vient du mot araméen « abba », qui veut dire papa, on vient de le dire. Les prêtres orthodoxes se sont parfois appelés pope, et l'évêque de Rome se nomme pape, et tous ces noms sont dérivés de papa. Et même l'apôtre Pierre appelle Marc son fils, et l'apôtre Paul en fait autant pour plusieurs de ses disciples.
Tite, mon véritable enfant dans la foi qui nous est commune.
Des chrétiens de Galatie, Paul dit
« Mes enfants, que j'enfante jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. »
Et à ceux de Corinthe, il écrira
« Quand vous auriez 10 000 pédagogues, vous n'avez qu'un père. C'est moi qui vous ai engendré en Jésus. »
Oui, comme il est délicat de ne pas se laisser entraîner à se croire le véritable père de ceux à qui l'on ne fait que transmettre la sagesse venue du Père par Jésus. Comme il est aussi risqué de ne plus voir que la seule paternité est celle de Dieu, et de se laisser entraîner à choisir des êtres humains comme le Père, le Guide, le Maître. Des maîtres, des pères, des guides auxquels on finit par abandonner sa liberté. C'est Dieu lui-même qui est l'unique enseigneur de la sagesse de vivre. Je déposerai mes directives, mes préceptes au fond d'eux-mêmes, dit Dieu, dans le livre de Jérémie. Et Jésus rappelle que lui-même n'enseigne qu'au nom du Père.
Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Dans les prophètes, il a été écrit, ils seront tous instruits par Dieu. Quiconque a entendu ce qui vient du Père et reçoit son enseignement, vient à moi.
Il ne faudrait pas que nous nous trompions de Père. Seul Dieu a pouvoir d'engendrer à la vie divine éternelle. L'être humain ne peut revendiquer aucun pouvoir sur son semblable. Tous les humains sont égaux parce qu'ils sont tous des frères et des sœurs.
Comment comprendre cette forte critique de Jésus envers les scribes et les pharisiens?
Il faut sans doute d'ailleurs relativiser ce qui est dit ici avec d'autres passages des récits évangéliques. On voit que Jésus avait des amis pharisiens et qu'il soupait volontiers chez eux. Et tous les pharisiens n'avaient donc pas les défauts pharisaïques. Rabbi Shemaïa, un pharisien, donnait des conseils semblables à ceux de Jésus.
Aime le travail, déteste de faire le maître et ne cherche pas les relations avec ceux qui dirigent.
Ce sont avant tout des déviations que Jésus dénonce, et non pas des personnes qu'il veut condamner. Et s'il dénonce vivement ces déviations, c'est pour éduquer ses disciples. Ceux, bien sûr, qu'il avait sous les yeux, mais nous tous, les disciples de toujours. Il veut les éduquer à vivre entre eux de véritables relations de frères et de sœurs. Chaque fois que Jésus annoncera sa passion et sa mort, il invitera ses disciples à servir, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. À la veille de son arrestation, il insiste de plus en plus sur le bon exercice de l'autorité dans la communauté. Et c'est d'ailleurs dans le cadre même du dernier repas que Luc place une querelle de pouvoir entre les disciples, ces disciples qui se disputent sur celui d'entre eux qui leur semblait le plus grand, alors même que Jésus venait de leur laver les pieds.
Les rois des nations agissent avec elle en Seigneur. Et ceux qui dominent sur elle se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Mais que le plus grand parmi vous prenne la place du plus jeune, et celui qui commande la place de celui qui sert.
Si on retourne les critiques de Jésus à l'égard de ceux qui usent de leur autorité en dominant, eh bien nous avons, d'une certaine manière, le portrait même de ce que fut Jésus. Et c'est aussi ce qu'il veut que soient ses apôtres, ses envoyés. Au XVIIe siècle, l'évêque Bossuet traduisait ainsi ce portrait pour ceux qui sont appelés des directeurs spirituels.
Sous le beau nom de direction, vous ne devez pas être dur et impitoyable pour tenir vos dirigés dans la dépendance. Mais vous, véritable directeur, si vous êtes obligé d'ordonner des choses fortes, soyez encore plus soigneux à soulager ceux à qui vous les imposez. Loin de vouloir vous attacher les âmes faibles, rendez-les libres. Et autant que vous pourrez, mettez-les en état d'avoir moins besoin de vous et d'aller comme toutes seules par les principes de conduite que vous leur donnez.
Le grand évêque Augustin disait à ses diocésains que ce qu'il était avec eux était plus important que ce qu'il était pour eux. Je le cite de mémoire. Pour vous, je suis évêque et c'est une charge de service. Avec vous, je suis baptisé et c'est mon titre de gloire. L'apôtre Paul définit aussi sa mission auprès des chrétiens comme un service.
Non, ce n'est pas nous-mêmes, mais Jésus Seigneur que nous proclamons. Quant à nous-mêmes, nous nous proclamons vos serviteurs à travers Jésus. Ce trésor qu'est la connaissance de Dieu en Jésus, nous le portons dans des vases d'argile pour que cette incomparable puissance soit de Dieu et non de nous.
Qui exerce l'autorité de par lui-même et non de par Dieu, usurpe un pouvoir qui ne lui appartient aucunement. Oui, toute autorité vient de Dieu. Mais attention, on peut comprendre cette phrase et s'en servir pour légitimer n'importe quelle autorité, et ainsi inviter le chrétien à obéir servilement à ceux qui ont le pouvoir. Son vrai sens est plutôt de rappeler que personne ne peut imposer son autorité propre, car l'être humain ne peut jamais dépendre d'un autre être humain et lui aliéner sa liberté. Seul Dieu peut être choisi comme la source de notre vie, comme l'autorité qui nous fera grandir. Seul Dieu, car il est l'être infiniment et parfaitement libre, un être qui ne peut vouloir rien d'autre que de faire croître notre liberté. Ne laisse pas s'éveiller le pharisien qui dort en toi. Il ne s'agit pas seulement ici de ne pas se laisser aller à la vanité et à l'hypocrisie. Jésus nous invite à ne pas abandonner notre liberté à d'autres êtres humains. Il s'agit de notre destinée, de la vraie nature de notre être. Nous sommes appelés à devenir des fils et des filles du Créateur divin. Il ne faut donc pas trahir notre vraie filiation et la paternité de Dieu en laissant d'autres hommes usurper un pouvoir qui ne leur appartient pas, car il n'appartient qu'à Dieu seul. N'appelez personne du nom de Père, car vous n'avez qu'un Père qui est Dieu. Eh bien, quand tout cela, Jésus soit l'unique modèle.
Comportez-vous entre vous comme on le fait en Jésus. Lui qui est de condition divine a pris la condition de serviteur. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout être proclame que Jésus est Seigneur. C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
254-8750. N'appelez pas, s'il vous plaît, après 22 heures. Vous pouvez aussi vous abonner au mois, 3 mois ou 6 mois à l'année, aux feuillets et aux cassettes. Vous nous trouverez aussi sur Internet.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.